petit étude biblique, et puis ensuite, on prendra bien évidemment le temps de prier, d'intercéder pour ce qui est sur votre cœur, pour les uns les autres, puis que le Seigneur continue cette belle œuvre qu'il a commencée en nous. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme. Nous n'avons pas la capacité de nous changer nous-mêmes, mais lui, dans sa grâce et dans sa puissance, il le fait si nous lui laissons un accès, un plein entier et total. Toute cette histoire de communion, de relation, d'intimité avec l'Esprit de Dieu et la parole qui habite en nous. Je n'ai pas pris la télécommande, je te ferai signe, tu l'avanceras au fur et à mesure. Vous pouvez ouvrir avec moi l'épître de Paul aux Philippiens. Vous savez que sur les mardis, là en ce moment, dans la thématique de l'Église, nous considérons les épîtres que Paul a écrits à des communautés, à des églises. On a vu les grands principes, les grandes thématiques qui ont été développées dans l'épître aux Romains. Ensuite, tu peux avancer, tu peux passer. On a considéré les deux grands points des doctrines fondamentales qui sont dans l'épître aux Galates. Et ce soir, j'ai à cœur de commencer avec vous à parler de l'épître aux Philippiens. Et on va ouvrir au chapitre 1er à partir du verset 12. Je n'aborderai pas tous les points de doctrine de l'épître aux Philippiens parce qu'on en a déjà considéré quand même sur les dimanches passés dans la thématique de l'Église. Notamment, il y a deux points qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est la citoyenneté spirituelle, les citoyens du royaume. Chapitre 1er, verset 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Dans ce conduisez-vous, la racine en grec, c'est vraiment l'idée de se comporter comme un citoyen du ciel. Et puis, il y a évidemment aussi cette perle du chapitre 2 dans lequel l'apôtre Paul décrit l'abaissement de Christ. Personne ne s'est abaissé comme lui, volontairement, librement, jusqu'à la mort de la croix. Et parce que personne ne s'est abaissé comme lui, personne ne sera élevé comme lui. Et je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus sur ces deux points, je les ai largement abordés, c'était il n'y a pas si longtemps, tout est en ligne, j'ai vérifié, dimanche 22 mars, vous avez ces points, ils sont développés. On va avancer comme ça ainsi. Et il y a un point qui est aussi extrêmement important, c'est l'Église unie et joyeuse. Merci pour la conduite des chants, merci au Saint-Esprit surtout. Parce que même dans le dernier chant, il y a déjà ce qu'il fallait, mais je n'aborderai pas ce soir d'autres choses à dire pour le prochain point de l'Épître aux Philippiens. Mais pour ce soir, on va parler essentiellement de la joie du Seigneur en nous. Chapitre 1er, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour le nom de Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance maintenant pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que les autres, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Mais qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente, mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ va être glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort est un gain. Amen. Un petit peu plus loin, au chapitre 3, on va prendre le verset 1er, et le verset 8. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, parce que pour vous, cela est salutaire. Un petit peu plus loin, verset 8. Personnellement, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Un petit peu plus loin encore, au chapitre 4. On va prendre les versets 2 à 4. Au chapitre 4, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Ce soir, je veux parler de l'Église unie et joyeuse. Il y a différents thèmes majeurs, comme je vous l'ai présenté, l'unité, l'amour, on en parlera plus tard, l'humilité, la citoyenneté, ici en l'occurrence l'unité et la joie. Pourtant, quand on considère le contexte de l'Épître, les contextes sont toujours extrêmement intéressants, on s'aperçoit que rien n'encourage à la joie, autant du côté, tu peux passer la diapositive suivante, merci, autant du côté de l'Église que du côté de Paul. Le contexte est difficile pour l'Église. C'est une Église qui a des difficultés à l'extérieur et qui a aussi des difficultés à l'intérieur. À l'extérieur, Paul leur dit, c'est clair, il y a de mauvais ouvriers, il y a des adversaires. Au chapitre 1er, le verset 15, « Quelques-uns prêchent Christ par esprit de par envie », c'est-à-dire que, oui, certes, ils prêchent Christ, ils prêchent la vérité, mais avec de mauvaises dispositions de cœur. Parce que le but, c'est dans une espèce de compétition animée par l'orgueil de montrer à Paul que eux aussi sont tout autant capables que lui. Et dans cette mauvaise attitude de cœur, avec des motivations qui sont impures, qui ne sont pas bonnes, tout ça, c'est une gloriole humaine, c'est de l'orgueil. Mais l'apôtre Paul, il va dépasser tout ça. Il dit qu'importe que ce soit parce qu'il connaît son Seigneur, il sait ce que le Seigneur est capable de faire, et que ce soit par envie, par esprit de dispute ou avec des sentiments nobles. De toute façon, Christ est annoncé, il faut que le nom de Jésus soit connu. Donc l'apôtre Paul, il ne va pas focaliser là-dessus. Au verset 28, chapitre 1er, verset 28, on ne l'a pas lu, mais on aurait pu aussi, « Ne soyez pas effrayés par les adversaires. Si vous avez des adversaires, je paraphrase, c'est une bonne chose. C'est la preuve que vous êtes sauvés, et c'est la preuve qu'ils sont perdus. Quand il y a des réactions, moi, ce qui me gêne, bien aimé, c'est quand on annonce un évangile et que ça ne dérange personne et que ça laisse les gens indifférents et que finalement, ben ouais, vous êtes mignon, vous êtes bien gentil. Moi, je vois dans l'évangile que Jésus, soit il passionne, soit on l'adore, soit on a envie de le crucifier. Mais je vois que Jésus n'a jamais laissé personne indifférent. Moi, ce qui m'a toujours inquiété, c'est que quand on témoigne ou quand on prêche, peu importe. Quand les gens ne sont pas dérangés, je trouve ça dérangeant. Il doit se passer quelque chose. L'évangile ne doit pas laisser les gens indifférents. On l'aime ou on le déteste. Et c'est normal, l'apôtre Paul dit, c'est normal qu'il y ait des adversaires. Chapitre 1er, verset 28. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés. Il y a des adversaires, mais c'est bien la preuve que vous êtes sauvés. Et c'est bien la preuve qu'eux, ils sont perdus. Donc prenez garde aussi, au chapitre 3, verset 2. Prenez garde, il y a des mauvais ouvriers. Il y a des faux circoncis, c'est-à-dire des gens qui ont une apparence, mais en réalité qui n'ont pas la vie correspond à ce qu'ils proclament. Il y a des difficultés à l'extérieur, et puis il y a aussi des difficultés à l'intérieur. On sait que c'est une église, quand on regarde encore le contexte, c'est une église qui n'a pas beaucoup de moyens. Les gens n'ont que très peu de moyens matériels, financiers. Malgré ça, si vous regardez le chapitre 4, hein, relisez l'ensemble de l'épître avant de vous en endormir ce soir. Ce chapitre, c'est pas long, et vous allez vraiment en tirer des bonnes choses pour vos cœurs. Mais on s'aperçoit que cette église, elle a quand même trouvé le moyen, alors qu'elle avait peu, elle a trouvé le moyen de pourvoir aux besoins. De la même façon, souvenez-vous qu'Antioche, dans ses limites, alors que la famine allait frapper sur toute cette région, Antioche aussi était frappé sur cette région. Mais ils n'ont pas fait de réserve pour eux, ils ont gardé le cœur ouvert, le cœur disposé. Et Antioche a pourvu aux besoins de Jérusalem, Il y avait vraiment cet esprit de la grâce qui régnait dans tous les sens du terme au niveau de ces églises. Alors, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne peuvent pas se confier dans leurs moyens matériels, et en plus, ça ne leur arrive qu'à eux parce que ça n'arrive dans aucune autre église de l'Afrique. C'est jamais plus arrivé, ça leur était arrivé qu'à eux. Il y a deux personnes dans l'église qui n'arrivent pas à s'entendre. Il y a Évodie et il y a Saint-Tiche. Et malheureusement, les brebis tombent toutes dans le panneau, mais ça n'arrive qu'aux Philippiens, ça n'est jamais arrivé depuis. Hein. Elles sentent ce besoin, c'est plus fort qu'elles, il faut prendre soit parti pour Évodie, soit prendre parti pour Saint-Tiche. Et tous ceux qui voient et que certains discutent avec Saint-Tiche, disent, ben franchement, c'est quand même pas sympa pour Évodie. Et tous ceux qui voient que certains discutent avec Évodie, se disent, franchement, ils sont en train de désavouer Saint-Tiche. Il n'y a pas à prendre parti. Ce n'est pas parce que je discute avec l'un que je suis en train de désapprouver l'autre. Ce n'est pas parce que je discute avec l'autre que je suis en train de désapprouver l'un. Et l'apôtre Paul, s'il y avait eu un souci doctrinal, il serait intervenu. Parce que le but des épîtres christocentriques, c'est toujours de ramener la saine doctrine quand c'est nécessaire. Et si l'apôtre Paul n'intervient pas au niveau de la doctrine, qu'il leur dit maintenant, ils vont dire Saint-Tiche, ça suffit, parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est juste un conflit de personnalité. C'est ni plus ni moins que ça. C'est une histoire de méthodologie. C'est un conflit de personnalité. Mais vous avez toutes les deux combattu avec moi pour la foi de l'Évangile. Donc, maintenant, il est temps de marcher d'un même pas. Et puis le problème, c'est que comme les brebis du troupeau se sont obligés de prendre parti soit pour l'un, soit pour l'autre, et ben, du coup, ça commence à cristalliser et tout est figé dans cette église. Et du coup, il y a un sérieux danger parce que ça, on le sait, ça tue l'unité de l'église. Vous le savez, vous vous en souvenez, on en a parlé plusieurs fois. Le plus gros danger pour l'église, bien entendu, ce ne sont pas les adversaires à l'extérieur. Le plus gros danger, c'est pas la persécution, c'est pas ce qui peut se passer dehors. Le plus grand ennemi de l'Église, pardon, je vais choquer, mais le plus grand ennemi de l'Église, je l'imagine comme vous, mais je suis désolé, le plus grand ennemi de l'Église, c'est même pas le diable, même s'il la déteste. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, oikonomeo, mon ecclesia, et même les portes du séjour des morts n'auront pas l'avantage sur elle. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Donc le plus gros problème, c'est même pas l'enfer qui va se déchaîner contre l'Église. Le problème, ce ne sont pas les mauvais ouvriers. Il y en a toujours eu. Le problème, ce ne sont pas les faux Christ. Il y en a toujours eu. Jésus l'a dit. Il y en aura de plus en plus. On a vu ce que ça a donné à Pergame. On a vu Thyatire. On a vu la Odyssée. On a vu Sardes. On a vu le sens des épîtres christocentriques. On voit toutes ces choses. Le véritable problème, ce ne sont même pas les faux Christ ou les fausses doctrines. Jésus a dit, c'est inévitable. Je vous ai laissé mon esprit, je vous ai laissé ma parole, c'est la lumière par excellence. Avec ça, vous pouvez affronter et triompher de tout, absolument tout. Les dangers, quoi qu'il arrive demain, ne sont pas à l'extérieur. Les véritables problèmes, les véritables dangers, dans une église, sont toujours à l'intérieur. C'est nulle part ailleurs. Et c'est juste comme ça. Parce que c'est ce qu'on a vu avec les Galates, c'est la chair. Et les œuvres de la chair, avec son esprit de parti, son dynamique et les divisions qui peuvent, sans parler d'une division affirmée, mais en tout cas, des prises de position et puis un manque d'unité. C'est pour ça que Paul insiste beaucoup sur la citoyenneté, sur le comportement chrétien, sur l'imitation. Comment le disciple imite le caractère de son maître dans son humilité, son abaissement, etc., etc. Donc le contexte, il est difficile autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors on pourrait se dire, sachant que à juste titre, les théologiens ont appelé ça l'épître de la joie. Philippiens, l'épître aux Philippiens est appelé l'épître de la joie. Et si vous faites attention, dans cet épître, en quatre chapitres, plus que dans n'importe quel autre, il y a des références à la joie. Je me réjouis, Christ est annoncé, je me réjouirai encore, réjouissez-vous, je ne me lasse pas de vous le répéter, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et on voit qu'il y a énormément de références en quatre chapitres à la question de la joie. Alors, puisque ça ne va pas forcément très bien à l'extérieur et à l'intérieur, pour l'Église, peut-être que c'est Paul qui, à un moment, lui, Et dans une période où tout va bien, où on va dire que tout baigne pour lui, et du coup, il est un petit peu euphorique. Allez, on se bat, c'est pas si grave, allez, ça va aller. Mais vous, c'est vous, quand même, allez, allez, vous pourriez faire un effort, un sourire, je suis plus aime. Non, non, il n'est pas euphorique. Paul est en prison. Il le dit parce que la foi n'est pas du déni. La foi regarde les réalités en face. Mais elle m'apporte toujours un Dieu qui est beaucoup plus grand que mes difficultés. Amen. Donc l'apôtre Paul, il est en prison, il le dit, il ne va pas s'étaler, il ne va pas se plaindre, mais il est clair. Le contexte de Paul est difficile, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et puis en plus, vous savez, ce n'est pas sa première tribulation. Vous regardez le parcours de Paul dans ses voyages missionnaires dans les Actes des Apôtres, vous allez vous apercevoir que, ah oui, il a vécu des choses extraordinaires. Mais excusez-moi, il a pris cher à chaque fois, hein. Presque chaque fois. Ça, vraiment, il a payé des prix. À Damas, il prêche, les Juifs tentent de le... sa première mission. Les Juifs, tout de suite, tentent de le tuer. Vous savez cet épisode où il y a un brave frère, il y avait une corbeille qui ne savait pas ce qu'il en ferait, et c'est grâce à cette corbeille que l'apôtre Paul, le grand apôtre, a pu se sauver par la muraille, et qu'il a été sauvé, parce qu'à Damas, ça tournait déjà au vinaigre, pardonnez-moi l'expression. Après, il va à Icône, il prêche de nouveau avec une pleine assurance. Mais là, les Juifs, les païens, tentent de nouveau de le lapider. Il s'enfuit à Lystre cette fois-ci. Damas, Icône, Lystre. À Lystre, ils ont réussi à l'attraper. Là, ils l'ont lapidé. Ils l'ont traîné en dehors de la ville. Et ils l'ont laissé pour mort. L'apôtre Paul, il a dit, ah, c'est bon, maintenant, bon, ça suffit, là, si c'est, ça se passe comme ça, Seigneur. L'apôtre Paul, il était lapidé, laissé pour mort. Vous avez vu, vous avez vu ce qu'il a fait? Il s'est relevé, il est retourné, il a refait une prédique. Là, on est loin de l'organisatrice de la fête de la musique qui tirait une tête de 10 pieds de monde parce qu'on avait osé prêcher le nom de Jésus dans ça. Lapidé, laissé pour mort en dehors de la ville. À Philippe, battu, emprisonné, avec Silas, acte 16. À Thessalonique, à Bérée, les Juifs agitent la foule contre lui, il est obligé de s'enfuir à Athènes, on le ridiculise, dès qu'il proclame la résurrection de Jésus. À Corinthe, il est arrêté, on le traîne devant le proconsul romain, et là, il est à Rome, et à Rome, eh ben, il est de nouveau arrêté, et il est en prison. Est-ce que le soleil m'a un peu trop tapé sur la tête? Est-ce qu'il a impuré un peu trop de cailloux, dans la vidéo? Ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris? Il n'y aurait pas une dimension de vie qui m'aurait échappé, peut-être? Qu'il dit, j'ai ce qu'il dit. Sachant ce qu'il fait et vivant ce qu'il est. Malgré les outrages, les douleurs, l'injustice, la souffrance, relisez les putains. Pas une ligne pour se lamenter, pas une ligne pour se plaindre. Pourtant, il avait largement de quoi, mais la joie qu'il manifeste, elle est authentique, elle est vraie, elle est profonde, elle est durable, c'est pas, pardonnez-moi, c'est pas du flan. Et l'apôtre Paul, il pourrait largement s'étendre sur ce qu'il endure. Mais au lieu de ça, il encourage, il fortifie, il édifie. Il écrit un des plus beaux passages qui soit sur l'abaissement de Christ. Il écrit l'épître de la joie. Et Philippiens, c'est l'épître de la joie avec un J majuscule. Pas une ligne, pas un ou deux mots, mais relisez-la sérieusement, faites attention. Donc l'épître est imprégné, imbibé de la joie de Christ. Les mots relatifs à la joie sont plus nombreux qu'ailleurs. La joie est sincère, elle est indépendante des circonstances. Elle est plus grande, elle est miraculeuse. Et comme je vous l'ai dit, cette joie que Paul manifeste, ce n'est pas du déni, ce n'est pas de la pensée positive. Parce que vous avez toujours des gens qui... Allez, il faut rester positif, quoi. Mais il y a des moments, je suis désolé, non, humainement parlant, il n'y a pas à rester positif. C'est super grave, c'est super sérieux. Oui, mais tu sais, il faut voir le bon côté des choses. Si vous regardez... Ah, mais tu sais, il faut voir le verre à moitié plein. Dis-moi ça encore une fois avec ce que je traverse dans mon corps, tu vas voir le verre à moitié plein comme tu vas te prendre. C'est pas du déni. Pour le nom de Christ, je suis encore dans les liens. Et voyez, bien-aimés, c'est tentant pour nous, des fois, de minimiser nos circonstances, de dire, ah, mais non, c'est pas si grave, ça va aller, ça va, oui, ça va aller, ça va aller. Le problème, c'est que chaque fois qu'on minimise nos problèmes, on minimise notre besoin de Dieu. Et on minimise sa puissance, on minimise, en réalité, on va nier le problème, on va minimiser le problème, mais ainsi, on va se priver de sa puissance et de son secours. On nie notre besoin de foi. On nie avec le besoin, on nie notre besoin de foi, on nie notre besoin de croissance, on nie notre besoin d'un Dieu infiniment plus grand que ce que nous traversons, peu importe ce que nous traversons. Et Paul, lui, faites bien attention dans ses écrits, Paul ne minimisait jamais, jamais les problèmes, il ne minimisait jamais les circonstances. Et là, il avait simplement, une fois de plus, la connaissance infiniment, infiniment grande. Et cette joie, il leur dit, vous voyez, bien-aimés Philippiens, vous voyez cette joie. Moi, je la vis. Faut que vous la viviez aussi. Parce que cette joie, elle est à leur portée. Et bien-aimés, cette joie, elle est en notre portée. Ah! Réjouissez-vous! S'il avait dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, ça irait encore un peu. Et il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce qui ne signifie pas, attention, c'est biblique, qu'il n'y ait pas des moments dans l'existence, dans la vie chrétienne, où il y a des moments de larmes. Les textes sont clairs, psaume 84, sur la vallée de Baca, la vallée des larmes, etc. Il y a évidemment des moments, ce sont des passages, mais ce qui doit être la norme dans la vie du chrétien. Les larmes sont exceptionnelles, la tristesse est exceptionnelle, mais la joie, c'est ce qui doit toujours d'une façon ou d'une autre, ce qui doit triompher, comme dans le psaume 84, par la présence de Dieu. Réjouissez-vous toujours, il sait ce qu'il endure et il sait ce qu'il vit extérieurement et intérieurement. Réjouissez-vous toujours. Comment est-ce que Paul fait pour se réjouir même en prison? Comment ça se fait que moi, je suis capable de perdre ma joie si facilement, que très très vite, je peux, mes yeux prennent la couleur du carrelage, les yeux se froncent, l'estomac se noue, je suis troublé dans mon sommeil, non pas dans mon sommeil malheureusement, dans mon, faut pas parler de sommeil en ce moment, c'est mal. Je suis troublé dans mon sommeil. Pour un oui, pour un non, je peux être agacé, je peux déprimer, je peux avoir des idées sombres, je commence à descendre. Et puis l'apôtre Paul, lui, garde sa joie en toutes circonstances. Comment est-ce que je peux être capable de m'inquiéter pour un oui, pour un non, alors que Paul, lui, ne s'inquiète jamais de rien, même en prison? Seigneur, qu'est-ce qui échappe dans tout ça? Il y a un Dieu pour lui, il y a un Dieu pour moi. Il y a une mesure d'esprit pour lui. Il y a une mesure d'esprit pour moi. Et non, c'est le même esprit, c'est la même parole, c'est la même vie, c'est la même volonté. Le secret, il est là. Tu peux mettre la dernière diapo, merci beaucoup. Le secret, il est là. Ça tient en quatre mots. Et malheureusement, nous ne faisons pas forcément toujours attention, mais il n'y a pas garde quand on le lit. Christ est ma vie. La clé de toute l'épître, elle est là. La clé de l'unité, elle est là. La clé de la joie, elle est là. La clé de toute victoire est là. Chapitre 1er, verset 21. Christ est ma vie. S'il avait dit Christ est dans ma vie, ce serait bien. Mais j'aurais toujours pas de solution à me dire, mais comment est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit Christ est dans ma vie, il a dit Christ est ma vie. Alors, merci Seigneur, pour toute vie chrétienne, quelle qu'elle soit, où Christ est dans notre vie. Amen. Exactement comme un jour, Marthe avait reçu Jésus chez elle, dans sa maison. Certes, pas en tant que maître, pas en tant que Seigneur, elle l'avait reçu en tant qu'invité, mais elle l'avait reçu, il était rentré dans sa maison, comme un jour Jésus est rentré par la conversion, la foi, la repentance, la nouvelle naissance. Il est rentré dans notre vie. Comme un jour, les disciples avaient Jésus dans la barque avec eux. Jésus, lui, régnait dans sa paix. Il voulait véhiculer aux disciples une leçon, un enseignement spirituel. Les disciples ne captent rien de ce qui se passe à ce moment-là. Jésus est dans leur maison, il est dans leur cœur, il est dans leur vie, il est dans l'image, il est dans leur barque. Donc pour eux, c'est la panique. Incapable de dormir, incapable de se réjouir, incapable de comprendre ce qui leur arrive. Et dès que les choses n'allaient pas comme ils pensaient que ça devait aller, c'était l'inquiétude et l'agitation. Et puis c'est comme ça que on a malheureusement bien mené des vies en dents de scie, des joies, une joie, une paix qui est proportionnelle et qui est flottante en fonction des nouvelles, en fonction des circonstances, en fonction, on l'a vu avec les Galates, en fonction des états d'âme, etc., etc. Et ça, Jésus est dans ma vie, il aide, je suis sauvé, alléluia, il est dans ma vie. Mais en attendant, il y a une autre dimension de vie, c'est une vie qui est non pas égocentrée, on aurait pu dire en parlant des Galates, une vie chrétienne charnelle, mais une vie qui soit spirituelle, c'est-à-dire une vie qui soit christocentrée, où tout, absolument tout, est focalisé sur lui. C'est une dimension de vie qui est surnaturelle. C'est une dimension de vie qui est extraordinaire. Et là, ici, c'est dans cette dimension de vie, Christ est ma vie. Cette dimension spirituelle où Christ est réellement le centre de tout, et Christ, je suis christocentré, ça c'est la clé, c'est la règle d'or, c'est le secret. Christ dans ma vie, c'est super, c'est une bonne chose, c'est un excellent commencement, mais il existe une dimension de vie nettement supérieure à la lumière des Épîtres, c'est que Christ soit ma vie. L'avoir invité, l'avoir reçu, l'avoir accueilli dans ton cœur. Si quelqu'un ce soir n'avait peut-être même pas encore fait cette expérience, je vois des visages, c'est fantastique, merci, super que vous soyez là. Peut-être Jésus n'est encore même pas dans votre bar. Il n'est peut-être encore même pas dans votre vie. Il n'est peut-être pas encore entré dans votre cœur, dans votre maison spirituelle. Et c'est la première chose qu'il faut faire. Mais une fois que c'est fait, c'est bien, mais il ne faut pas en rester là, parce qu'ensuite, il y a des dimensions de vie à développer avec lui. Je sais que je suis sauvé, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie, je sais qu'un jour j'irai au ciel, mais moi ce qui m'intéresse, c'est en attendant d'aller au ciel, c'est qu'est-ce que je vis aussi bas. Ça m'interpelle. C'est la façon dont Paul vivait, et les apôtres, l'Église primitive de façon générale, l'Église primitive, la façon dont elle vivait ici-bas, ça m'interpelle. Je me dis, Seigneur, mais je suis en train de passer à côté, pardon, mais je suis en train de passer à côté de quelque chose de tellement stylant. Alors oui, dans mon cœur, merci, tu es là, Seigneur, c'est une bonne chose, c'est ma bonne vie. Il y a déjà une joie qui est là. Il y a la joie du salut. Merci, Seigneur. Et puis vous avez remarqué que dans la vie chrétienne, il y a différentes sortes de joie. Il y a différents degrés de joie. La joie du salut. Puis il y a aussi la joie quand on a demandé au Seigneur, on a fait une nouvelle expérience. Et nous tous, à un moment ou à un autre, on était malade, on a expérimenté, il y avait Rapha. Ah, merci Seigneur, j'ai une joie supplémentaire, je connais une facette différente de mon Seigneur. Et puis à un autre moment, j'étais dans le besoin, j'avais des besoins professionnels, sentimentaux. J'ai demandé à Dieu pour mon épouse, pour mon mari. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a comblé, m'a conduit. Et puis il a répondu, ah merci Seigneur, un autre degré de joie. Et puis il y a des moments où vous êtes là, vous êtes tétanisé, vous ne comprenez pas. Vous avez un mal fou à témoigner, c'est une lutte, un combat terrible. Et puis le jour où vous êtes baptisé dans l'Esprit, et puis que vous commencez à vivre une autre vie avec le Saint-Esprit, là vous commencez à parler de Jésus, vous commencez à témoigner. Et si normalement, le jour où vous passez du silence, où vous commencez à témoigner convenablement de Jésus, et là, un autre degré de joie. Moi, j'ai jamais vu des gens parler de Jésus et pas avoir un degré de joie, même si ça a été difficile. On est d'accord? Quelque chose à l'intérieur. Je dis, ah, Seigneur, merci. Ah, j'ai porté ton nom. Ah, mes mots n'étaient pas à la hauteur. J'étais maladroit. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a à faire dans les cœurs. Et j'ai parlé de Jésus. Et ça, c'est un autre degré de joie. Et on a différents degrés de joie. J'ai ça dans la vie chrétienne. Et puis, là, on arrive quand même à, effectivement, un autre degré surnaturel, extraordinaire, c'est une autre qualité de vie. Et qu'est-ce qui peut manquer pour que j'arrive à cette dimension où je suis désolé, je ne fais pas exprès, mais je vois bien les circonstances, mais je suis désolé, non, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Non. Je peux passer par l'inquiétude. Je ne suis pas inquiet. Je peux verser des larmes, mais la tristesse n'aura pas raison de moi. Parce qu'il y a une dimension de vie plus forte à l'intérieur. Et tout est là, bien-aimé, Christ est ma vie. Avoir fait de lui notre seule et unique raison de vie. Tout est centré sur lui. Jésus, on l'a vu, chapitre 3, vous l'avez mis ici, chapitre 3, verset 8, le paraphrase que dit Paul, excusez-moi, mais à part Jésus, il n'y a rien qui m'intéresse. Tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on me raconte, tout ce qu'on me propose, c'est vain, c'est vide, ça sonne creux, c'est clinquant, ça me laisse vide, j'en ai même plus envie, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais me glorifier de ça, je pourrais parler de ci, je pourrais témoigner de ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et Paul dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Je regarde toutes choses comme de la boue. J'ai qu'un seul, une seule vie, j'ai fait désir. Il y a un truc qui m'en fout du matin au soir, du soir au matin. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux t'aimer, je veux te servir, je veux savoir qui tu es. Je veux ta vie en moi, je veux vibrer, je veux te sentir. Je veux sentir ta force, je veux sentir ta vie, je veux sentir la profondeur de ton esprit. Je veux des réalités spirituelles qui me transcendent, qui m'emmènent à dépasser toutes mes limites. Et tant que je n'ai pas ça, et bien Paul, il est comme un fou. Mais Jésus, ce monde, pardon bien aimé, ce monde m'a rien donné. Je lui dois rien. Et en même temps, alléluia, il ne pourra rien enlever. Tout ça, je le regarde comme de la boue. Bien aimé Christ, parce que je veux cette connaissance et je veux cette dimension de vie. Bien aimé, je le dis en d'autres termes. Peut-être que Paul l'aurait dit comme ça. C'est comme si Paul était en train de me dire, tu sais, Stéphane, Jésus n'est pas un plus dans ma vie. Jésus n'est pas dans ma vie, il est ma vie. Jésus n'est pas un plus dans ma vie. Stéphane, eh bien, être chrétien, ce n'est pas un plus dans ta vie, ce n'est pas la carte au champ, ce n'est pas la carte à four. Être chrétien, c'est ta vie, c'est qui tu es, c'est ton identité profonde. Et Jésus ne peut pas être un plus dans ma vie, Jésus est ma vie. Alors, avoir reçu le Saint-Esprit, amen. Oui, mais de là être rempli, débordant de l'esprit. Encore une autre dimension. Oh, puis on pourrait prendre d'autres terminologies. Avoir Jésus comme sauveur. Alléluia, merveilleux. Mais avoir Jésus comme Seigneur. Et très souvent, et c'est bien, on a raison. On bénit le Seigneur, on le loue, on est tellement heureux. Combien de fois je dis, Seigneur, en toi, j'ai un père. J'ai un ami, j'ai un frère, j'ai un soutien, j'ai psaume 46, j'ai un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai tout ça, mais Seigneur, merci. Mais je ne suis peut-être pas pressé d'avoir trouvé un Seigneur, un roi, un maître, devant lequel je vais tout abandonner, devant lequel je vais capituler. Parfois, pardonnez-moi, bien-aimé, on est pressé d'être béni. Et Dieu veut nous bénir avant tout. Même, je vais même vous dire un truc. Le Seigneur a plus envie de vous bénir que vous d'être béni. Le Seigneur a plus envie de vous bénir que vous d'être béni. On est souvent pressé d'être béni, mais on n'est pas forcément pressé de fléchir les genoux, de capituler et de laisser le Seigneur régner. Jésus est, Ésaïe 9, il sera appelé prince de la paix. Et un prince, je crois comprendre qu'il est fait pour régner. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait les hautes écoles, mais je crois avoir compris qu'un prince, il est fait pour régner. Jésus est le prince de la paix, le prince de l'amour, le prince de la joie. Je vous donne ma joie, Jean chapitre 15, 17. Je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je veux que ma joie soit parfaite en vous. Seigneur, Jésus prie en Jean 17. Seigneur, je leur ai annoncé ces choses, je leur ai donné ton nom, afin que ma joie soit parfaite en elle. Et même s'il existe, bien-aimé, des moments difficiles, même s'il y a des vallées de Baca, psaume 84, même s'il y a des moments à traverser, oui, mais par la présence de Dieu, même les auteurs de l'Ancien Testament, les auteurs vétérotestamentaires, les auteurs de l'Ancien Testament disent, par la présence de Dieu, ce heureux ceux qui habitent ta maison, parce que quand ils passent la vallée de Baca, la vallée des larmes, il la transforme. Réponds pas, c'est pas le Seigneur. Il la transforme Mais en un lieu plein de sources, même dans la vallée des larmes, tu la transformes. Merci Seigneur. Parce que si je passe par des moments où je ne suis dans aucune forme de délire, où je peux vraiment verser des larmes, je sais qu'il y a une vie surnaturelle, une vie extraordinaire qui va me permettre de vivre cette joie répandue dans mon cœur. Et cette joie a une clé, elle a un secret. Ça s'appelle non pas Christ est dans ma vie, mais ça s'appelle Christ est ma vie. Si vous manquez de joie, si vous manquez de paix, si vous manquez de... Faut pas chercher le... Faut pas chercher la... Cherchez pas la paix. Cherchez pas la joie. Cherchez le prince de la paix. Cherchez le prince de la joie. Cherchez son règne dans sa vie. Amen. Voilà, on reste là pour ce soir. Et puis, la prochaine fois, on abordera une autre facette de l'Épître aux Philippiens. Merci Seigneur pour ta part.